Bonjour bien-aimés, notre reconnaissance à Dieu qui est le Dieu de la vie. L'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens le chapitre 1, le verset 20, c'est une parole d'encouragement, ce n'est pas le texte du message de ce matin, mais c'est une parole d'encouragement que j'ai reçue au cours de cette semaine et que je ne cesse de partager dans toutes les rencontres où je suis depuis quelques jours. Et ça cadre aussi avec certains événements qui se sont produits ces jours-ci. Philippiens chapitre 1, verset 20. Si quelqu'un a le texte et qu'il veut bien le lire avec nous dans l'assemblée, Philippiens chapitre 1, verset 20.
Paul et Timothée, à Christ Jésus qui soit fils, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus.
Et tu peux aller au verset 20, s'il te plaît.
Selon mon avant-désir et mon espérance, je n'aurai contre de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est la vie et la mort est un gain.
C'est une parole d'encouragement, n'est-ce pas? Encouragement parce que l'apôtre qui l'écrit, il écrit dans un contexte où tout n'est pas simple pour lui. Et il nous donne cette parole qui est parole de Dieu. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et ma mort m'est un gain. On dit souvent que c'est l'apôtre, donc c'est normal qu'il écrive ces choses-là. Ce qu'on oublie, c'est que l'apôtre est un homme comme nous. Un homme qui a été appelé par Dieu au service, mais qui était tout à la fois humain avec un sang qui circulait dans ses veines, avec ses peurs, ses craintes, ses joies, ses pleurs. Et apparemment, au moment où il écrivait cette épître, il était en captivité, donc il était en prison. Et les commentateurs disent qu'il ne savait pas s'il allait être libéré, s'il allait mourir dans cette prison ou pas. Et donc, quand il écrit ce chapitre, à partir du verset 12, qu'on a lu jusqu'au verset 26, il dit, de tout ce que je veux retenir, c'est que dans mon parcours de vie, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, je l'ai fait, je l'ai dit, avec comme seul leitmotiv, que Christ soit glorifié. C'est pour ça qu'il dit, je n'aurai honte de rien. Pas qu'il n'a pas eu d'échec, pas qu'il n'a pas eu de peur, mais que l'objectif qui a toujours conduit sa vie, c'était de marcher selon le projet de Dieu pour lui. De marcher selon la volonté de Dieu pour lui. Et autant sa vie a été une vie qui a marché selon la volonté de Dieu, autant il se prépare aussi à partir de l'autre côté. Il espère ardemment que même au travers de sa mort, Christ aussi sera glorifié. Et il dit régulièrement, je ne suis pas en prison parce que je suis un voleur, parce que je suis un menteur. Il dit, si je suis en prison, c'est parce que j'annonce la bonne nouvelle de Christ. Et donc, je n'ai pas honte même d'être en prison, parce que le motif qui m'amène en prison, c'est encore la gloire de Dieu. C'est parce qu'on m'a interdit d'annoncer cette bonne nouvelle et que je l'ai faite quand même, que je me trouve en prison. Car pour moi, ma mort, ou ma vie, toujours glorifieront le Seigneur. Christ est sa vie à lui, et la mort est un gain. Et dira plus tard, toujours dans cet épître, si on me demandait, toi là, actuellement, l'apôtre Paul, où tu veux être, il dit, la réponse est simple. Je veux être au ciel avec Dieu, au paradis, où tout va bien. Dans la félicité éternelle. Donc, pour lui, il n'y a pas photo sur cette réponse-là. Elle est claire, elle est brève, elle est là et maintenant. Il dit, par contre, de ces deux choses, même si celle qui est meilleure, c'est d'être auprès du Seigneur, je sais que Dieu a encore besoin de moi ici, et il a encore besoin de moi auprès de vous, l'église de Philippe. Et je veux rester encore là pour vous aider à maturer encore pour que la joie de votre foi soit accomplie. Donc, de ces deux choix, je fais le choix de dire à Dieu, laisse-moi encore au service des Philippiens. Parole d'encouragement, que ce soit par nos vies ou quand cet événement difficile arrive et qu'on doit être amené à se séparer d'un être cher, que nous puissions demander à Dieu de nous aider pour que même dans ces moments-là, ce soit sa gloire qui soit manifestée. Bien-aimé. J'aimerais ce matin, pendant que nous ouvrons officiellement, en tout cas, les activités, les ministères, les services de notre Église, j'aimerais au travers de ce message, qui n'est pas un message de prédication textuelle comme d'habitude, qui serait une série de versets à invoquer, à dire, à expliquer, pour nous permettre de revisiter nos objectifs en tant qu'Église de Dieu, en tant que chrétiens. Nous permettre à nous qui sommes habitués, à nous qui sommes chrétiens de cette communauté, nous rappeler pourquoi nous sommes là, ensemble, en tant qu'Église. Non seulement ici, mais chacun chez nous. Et à ceux qui nous visitent ou à ceux qui nous rejoignent depuis peu, à vous donner aussi les objectifs pour lesquels nous sommes réunis, pour lesquels nous faisons Église, pour lesquels nous sommes famille de Dieu, pour lesquels nous sommes temple du Saint-Esprit, pour lesquels nous sommes corps de Christ, ici, au 17 rue Emmanuel Chabrier. Vas-y, s'il te plaît. Le texte qui va conduire ces cinq objectifs, c'est le texte de Actes chapitre 2, 46 à 47. Du reste, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre que nous étudions depuis quelques mardis et que nous allons étudier encore sur quelques mardis lors de l'étude biblique pour nous réimprégner de la vérité de l'Église, de la première Église. Nous l'avions déjà fait avec les responsables et là nous le faisons avec toute l'Église des mardis soirs, une fois dans le mois. Actes chapitre 2, verset 46 au verset 47, il est écrit que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelqu'un a écrit, il faut une vision de l'Église locale que tous les membres partagent, que tous les membres défendent, derrière laquelle tous les membres s'engagent à la traduire dans les faits. Cette vision doit inciter chacun à rechercher Dieu avec ardeur, avec importunité, à prendre des risques et à s'impliquer pour la gloire de Dieu. À partir du moment où les gens ont une vision, ils se sentent poussés des ailes. Elle les unit et les incite à rechercher ensemble la gloire de Dieu dans leur entourage. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église naissante, dans le livre des Actes, les apôtres avaient réussi à fédérer tous ses frères, tous ses sœurs, toutes ses sœurs. Dans cette grande proclamation de l'Évangile lors de la Pentecôte, le texte biblique nous dit que sur ce moment-là, il y a eu à peu près 3000 conversions. Il y avait du monde à Jérusalem. C'était le temps, justement, de cette fête juive où tous les juifs venaient à Jérusalem. Même ceux de la diaspora qui n'étaient pas en Palestine venaient de partout le monde. Et la ville était remplie de milliers et de milliers de personnes. Et on a cet événement, ce bruit qui attire tout le monde vers cette chambre haute. Et où l'apôtre Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, va faire cette grande prédication. Et ceux qui vont l'écouter vont dire, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Il va leur dire, « Changez de vie et repentez-vous et croyez au Christ Jésus. » Et là, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus seront baptisés. 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Et à partir de là, les apôtres ont organisé cette nouvelle maison de Dieu qui venait de se réunir. Et on imagine bien que 3000 personnes ne pouvaient pas rentrer dans une maison. Donc ils avaient plusieurs lieux comme ça dans la ville de Jérusalem où ils se retrouvaient. Et le texte dit qu'ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Par contre, dans les rassemblements, c'était dans les maisons. Parce qu'en ce moment-là, ils n'avaient pas encore de lieu de culte. Ils continuaient d'aller au temple. Mais à un moment donné, à chapitre 3, ils vont être même rejetés du temple. Avec l'événement de Paul, de Pierre et de Jean. Pierre et Jean vont être emprisonnés et à partir de ce moment, ils seront un peu persona non grata dans le temple et dans les synagogues. Ce texte est un peu à la base de ce que nous avions dit il y a quelques années, 2017. Nous avions ensemble travaillé pour nous dire qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions ensemble. Et nous avions extrait 5 actions que nous voulions que Dieu fasse dans nos vies individuelles, mais aussi en tant qu'Église de Dieu. Et ces 5 objectifs pratiques devaient toucher 3 aspects de nos vies en tant que déjà personne individuelle. Notre caractère, notre compétence et notre connaissance. Et le premier de ces objectifs pratiques, c'est une vision d'amour. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, verset 11 et verset 12. Dieu est un pur esprit. La dernière fois qu'il s'est révélé, c'est en Jésus-Christ, son fils, il y a 2000 ans. Jésus a dit à ses apôtres, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Car je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et le Père et moi, nous sommes un. Un certain Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Il dit, Philippe, tu es avec moi depuis et tu ne sais pas. Le Seigneur est monté au ciel, à l'ascension. Plus de 500 personnes l'ont vu, ressuscité, et il est monté au ciel devant les apôtres. Il n'est plus physiquement parmi nous. Il nous a donné son esprit et l'esprit est un pur esprit que nous ne pouvons pas voir. Par contre, la réalité de l'existence de Dieu, de la manifestation de Dieu, Dieu a pris le pari que ce soit au travers de l'amour des chrétiens. C'est un privilège que Dieu nous fait. Dieu nous associe à lui et nous associe à la manifestation de sa présence dans le monde. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Un amour qui ressemble à celui de Dieu et ne se satisfait que lorsque les gens se tournent vers Jésus pour trouver le pardon et la vie en lui. Un tel amour nous pousse à faire connaître aux autres la vérité du salut, de l'évangile.
Matthieu chapitre 5, verset 43-48, il est dit, et c'est Jésus qui parle, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporteriez vraiment comme les enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait lui son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Amen. Et ça rejoint ce que l'évangéliste Jean va dire dans le texte qui est affiché là. Ça rejoint la dernière portion de ce verset. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Souvent on dit la perfection n'est pas de ce monde. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais je pense qu'à force de dire ça, on fait pas les efforts que l'Esprit de Dieu est capable de nous donner de faire dans l'amour. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Ça se saurait si on était parfait. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut mettre une chape de plomb? Comme si on a mis une barrière qu'on peut pas franchir? L'Esprit de Dieu nous a été donné justement pour nous donner d'exceller dans ces choses. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour. Souvent, on parle beaucoup de l'amour. Et quand on fait le résultat des courses, on est un peu triste nous-mêmes, sur notre propre vie, par rapport à la façon dont on manifeste l'amour. Parfois, on est sévère aussi avec nous-mêmes. Je crois que des fois, il ne faut pas être aussi sévère. Il faut reconnaître tout ce que Dieu fait de nous, comment Dieu nous a donné d'aimer les gens, comment Dieu nous transforme. La preuve, en tant qu'Église, nous pouvons dire merci Seigneur. Nous ne sommes pas issus de la même famille. Nous ne sommes pas issus du même continent. Nous ne sommes pas issus des mêmes cultures. Nous ne sommes pas issus des mêmes classes sociales. Et pourtant, nous faisons Église. Et cela dure depuis quelque temps, n'est-ce pas? Donc, nous manifestons déjà cet amour de Dieu. Et nous pouvons dire merci Seigneur, parce que tu nous donnes de le manifester. Par contre, nous ne voulons pas nous en satisfaire. Nous voulons progresser. Donc, l'un des objectifs en tant qu'Église de Créteil, c'est que l'amour de Dieu soit concret dans nos relations, les uns envers les autres. Et cet amour a des articulations concrètes. Aimer son frère, c'est prendre des nouvelles de son frère. Aimer son frère, c'est de se soucier du bien-être de son frère. Aimer son frère, c'est d'aimer qu'il soit béni de Dieu. Aimer son frère, c'est dans le concret que ça se manifeste. Et on en a longuement parlé, et je ne vais pas m'étaler, mais laissez l'Esprit de Dieu nous donner d'être une Église aimante, dans le concret des choses, dans la pratique des choses. L'hospitalité fait partie de l'amour. Ouvrir nos maisons, nous inviter les uns les autres à manger, prendre des nouvelles quand ça fait 2 dimanches qu'on n'a pas vu le frère. Moi, en général, mon critère c'est 2 dimanches. Si pendant 2 dimanches je ne vois pas un frère, une sœur, c'est pas d'abord parce que je suis pasteur, mais c'est parce que c'est mon frère et c'est ma sœur. Je me dis, je vais prendre des nouvelles. Parce que 2 dimanches, ça fait la moitié du mois, ça fait un peu long. C'est mon bien-aimé, je vais avoir des nouvelles de lui. Et en général, j'envoie soit un petit message, soit j'appelle la personne. Je crois que c'est des petites marques comme ça qui montrent l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un mon bien-aimé, ça c'est un titre, c'est une appellation, mais dans le concret, comment ça se manifeste? Deuxième vision, deuxième objectif pratique, pardon. Nous avons dit un enseignement de qualité, parlant de la Bible, n'est-ce pas? Vas-y. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Et Colossiens 3, verset 16, de dire que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Bien-aimé, quand on aime Dieu, ça suppose qu'on aime sa parole. Il dit que sa parole n'est pas comme un lait frélaté, c'est-à-dire c'est pas comme un lait que quand vous buvez, il a tellement tourné qu'il peut vous donner des indigestions. La parole de Dieu ne donne pas d'indigestion. La parole de Dieu est comparée à ce lait qu'on donne à l'enfant dès sa naissance et qui contient tous les nutriments nécessaires à sa croissance. Vous savez, jusqu'à un certain nombre de jours, l'enfant n'a besoin que du lait, que du lait, que du lait, rien d'autre que du lait. Parce qu'à cet âge-là, le lait qu'on lui donne, c'est un lait complet, qui lui suffit largement pour sa croissance. Et la parole de Dieu est comparée à un lait pur que Dieu nous donne pour notre croissance. Et quand il dit, ce n'est pas comme un lait frélaté, ça veut dire prendre avec attention ce que nous recevons comme parole de Dieu. Toujours nous rassurer que ce que nous recevons est la vraie parole de Dieu et pure. Je ne cesserai de nous avertir sur Internet et tout ce qu'on peut y trouver comme prédication, comme message, comme site chrétien. Il y en a tellement aujourd'hui. Le Covid l'a démultiplié par millions puisque nous étions confinés et ça s'est développé comme du sable au bord de la plage. Soyez vigilants à ce que vous avalez spirituellement. Ce que nous avalons spirituellement a des incidences sur nous. Notre esprit se nourrit de ce que nous entendons, de ce que nous laissons entrer en nous. C'est pour ça que la Bible dit, médite cette parole nuit et jour, hein, pour que tu sois abreuvé, alimenté, nourri par cette parole. Il y a quelques missionnaires, quelques enfants de Dieu, quelques chrétiens d'un certain âge qui ont cette petite pratique qui me semble être saine, que j'essaie de suivre. Le réveil, au réveil, leur premier réflexe, avant d'écouter quoi que ce soit, avant de laisser quoi que ce soit entrer en eux, c'est soit la lecture de la parole de Dieu, soit l'écoute d'un cantique chrétien. C'est leur premier réflexe. Parce que ce qu'ils souhaitent en se réveillant les matins, c'est que les premiers instants de la matinée soient dans la réception de la parole de Dieu ou de la louange à Dieu. Et je pense que c'est une belle pratique. Quand on veut un enseignement biblique de qualité, il y a des petites disciplines comme ça qui nous aident. Parce qu'on est tout de suite envahi. Hein? Si on ouvre la radio, on est envahi de nouvelles du monde. Si on ouvre nos téléphones, on est envahi de news. Et parfois, sans nous en rendre compte, ça influence nos journées. Ça influence nos journées. Être enseigné dans la parole de Dieu, c'est aussi prendre part au culte. Les cultes sont un moment où le chrétien vient s'enrichir de l'étude biblique en semaine, des exhortations en semaine, et le dimanche se nourrit d'un enseignement, d'une prédication que le prédicateur s'est mis devant Dieu, a pris le temps de préparer pour nourrir le peuple de Dieu. Donc c'est un temps de qualité. Se priver de ce temps, c'est comme si on se privait de manger, alors qu'on ne se prive pas de manger, puisque le corps en a besoin. Et en plus, nous qui sommes dans les pays dits riches, on mange 3 fois par jour. Vous savez qu'il y a des pays où les gens ne mangent qu'une seule fois par jour, même ici. Il y en a qui sortent les matins, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, jusqu'au soir. Et en plus, on n'a pas tous cette habitude de méditer régulièrement la parole de Dieu. Donc le seul moment où on peut avoir un enseignement de qualité, une exhortation de qualité où quelqu'un l'a préparé pour nous, c'est les mardis et les dimanches, 2 fois dans la semaine. 24 multiplié par 7, et vous avez juste 2 fois 30 minutes dans la semaine. Parce qu'il y a une exhortation du pasteur, faut pas que ça dure plus de 30 minutes. Hein? Donc, vous avez 2 fois 30 minutes dans la semaine pour être enrichi. C'est trop peu. Et là encore, on n'est pas souvent là. J'ai pas fait le calcul, mais calculez 24 par 7. Ça vous donne le nombre d'heures de la semaine. 100, 168. 668 heures, on ne consacre qu'en moyenne une seule heure à être exposé à l'enseignement de qualité. Une heure, 668. Ça fait même pas le dixième. Pour ce qui concerne l'Église, j'espère que nous ne nous contentons pas de ce qui concerne l'Église. Qu'en semaine, nous prenons le temps de nous enrichir. Un enseignement de qualité. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons ensemble dans cette communauté faire en sorte que chaque chrétien, chaque chrétienne soit exposé à un enseignement de qualité, lui donner l'envie, la discipline pour que lui-même, elle-même arrive aussi à se nourrir de la parole de Dieu en dehors des temps d'église. Le vrai culte se trouve là où on enseigne la parole, où les croyants la reçoivent dans leur cœur avec joie, où il se traduit par la foi en Dieu et l'obéissance. Selon le psaume 95, versets 6 à 8. S'il n'y a pas l'amour du cœur et l'obéissance à la parole de Christ, on peut chanter tous les cantiques qu'on veut. Mais on ne s'approche pas de Dieu comme il le faut. Et c'est ce que Dieu reproche à Israël. Il dit, ce peuple me loue sur les bouts des lèvres, mais les choses ne vont pas profondément dans son cœur. Que Dieu nous aide pour que nous soyons une église, des chrétiens qui aiment l'enseignement de qualité, qui pratiquent l'enseignement de qualité. Troisième objectif pratique que nous nous sommes donné, une prière de qualité, bien-aimés. Et le texte qui nous encourage, c'est celui de Matthieu, chapitre 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette déclaration comprend deux parties. L'une des parties, c'est la promesse. Et l'autre partie, c'est la raison pour laquelle celle-ci est vraie. La promesse, dans ce verset, c'est le Seigneur promet que le Père donnera ce que ses enfants s'accordent à lui demander. Mais il y a une condition. S'accorder, ça suppose qu'on a rempli le premier objectif que nous avons vu. L'amour fraternel. Il dit si deux s'accordent, ça veut dire si, c'est pas juste de venir s'asseoir ensemble parfois, on a traduit ça, si on vient s'asseoir ensemble simplement. Non, si on s'en sent ensemble, qu'on s'aime pas, qu'on n'est pas accordé, cette promesse ne peut pas se réaliser. Donc, ce n'est pas un mantra. C'est pas un mantra, ça dit, c'est pas une formule magique de dire, si deux ou trois sont assemblés, Dieu va, non. Il y a une condition. S'ils s'accordent, si on est unis, si nous nous aimons les uns les autres. Cela dépend de l'unité et de la qualité de la relation au sein de l'église. Il y a un missionnaire qui disait, il y a des prières qui ne déplacent pas le plafond. Ce n'est pas l'intonation de la voix qui fait que la prière atteint à Dieu, c'est la qualité de la relation de ceux qui prient. Si deux ou trois s'accordent, s'ils sont unis, s'ils s'aiment et qu'ils se mettent ensemble pour me demander quelque chose, je leur accorde cela. Quelqu'un a dit le temps consacré dans les églises, dans beaucoup de nos églises, manque de qualité. Parce qu'on n'accorde pas assez d'attention au maintien de l'unité dans l'amour au sein de l'Église. Quand il y a des tensions, et ça arrive dans certaines églises, quand il y a des incompréhensions et qu'on ne les règle pas, et qu'on vient prier ensemble, Dieu n'est pas glorifié. Cette prière, elle ne dépasse pas le plafond. Ce n'est pas le nombre de personnes qui prient qui fait que la prière est entendue par Dieu. C'est pas la vocifération, aussi forte soit-elle, qui fait que Dieu entend les prières. Dieu dit, je suis pas sourd. Je suis pas sourd. J'ai une oreille, mon ouïe est très fine. J'entends tout. et j'entends tout. Mais c'est vos péchés, vos iniquités qui font que je ne vous écoute pas. Donc si nous ne nous entendons pas, cette promesse ne se réalise pas. Par contre, si nous sommes dans cet amour fraternel, dans cette unité, alors si deux seulement se mettent ensemble, qu'ils soient rassurés, que leur prière monte jusqu'à Dieu. Amen. La raison pour laquelle ceci est vrai, quant à l'exaucement, elle réside dans la présence du Seigneur Jésus. Le Fils de Dieu est notre Sauveur. Il est au milieu d'un tel groupe de chrétiens. Il est d'accord avec ce qu'il lui demande, ce qu'il demande au Père. Celui-ci écoute et exauce toujours les requêtes de son Fils. Donc, certes, il y a notre unité, mais cette unité, elle est bonifiée par la présence de Christ. Et comme Dieu répond toujours positivement au Fils, il n'y a pas de raison que si nous invoquons le Père dans l'unité au nom du Fils, que Dieu ne nous écoute pas. C'est pour ça que nous, les évangéliques, nous avons fini par formuler nos prières toujours à la fin au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous savons que la promesse de l'exaucement est dans son nom, dans sa présence. La prière de qualité, bien-aimé. Hein? J'ai un rêve, mais je ne sais pas. Il n'est pas lié qu'à cette église. Il est lié, malheureusement, à beaucoup de nos assemblées. Souvent, je rêve que les mardis soient comme les dimanches, qu'on soit aussi remplis. Mais c'est un rêve. Parce que ça arrive presque pas qu'on soit comme ça les mardis. Ça arrive presque pas. Ça arrive presque pas. Pourquoi ça arrive pas? Je me demande. Quelqu'un dit, ouais, mais toi, pasteur, tu n'as pas d'activité professionnelle. C'est vrai. Vous avez raison. Je n'ai pas d'activité professionnelle. Donc, j'ai du temps pour être là les mardis soirs. Vous avez raison. Mais c'est pas vrai. Parce que quand j'avais une activité professionnelle, les mardis ou les jeudis, selon l'église où j'étais, j'y étais aussi des bien-aimés. Donc, c'est pas vrai du tout, puisque j'ai pratiqué cela. J'y étais pas forcément 4 mardis, 4 jeudis sur le mois, parce qu'il y avait des fois où j'y pouvais pas, mais j'y étais quand même. Pour moi, c'était un objectif dans ma vie, de participer aux réunions de semaine. C'est vrai que quand on a eu des enfants bas âge, c'est plus compliqué. Parce que quand on a des enfants bas âge, c'est vrai que c'est difficile. Parce que les garder, c'est pas simple. Donc, il y a des circonstances de vie qui font que c'est pas possible. C'est vrai. Il faut pas non plus culpabiliser. Mais quand c'est possible, les bien-aimés, ne faites pas des réunions de semaine une option. Vous savez, quand vous faites une option, ça veut dire, je peux y aller comme je peux pas y aller. C'est optionnel. Mais si vous mettez ça comme un, comme une priorité, si vous mettez ça comme une priorité, honnêtement, ça vaut la peine. Dieu aime que son église soit rassemblée et prier. Parfois, les gens disent, ouais, mais ici, on prie pas. Mais si toi, tu viens déjà, si toi, déjà, tu viens, ça fait un de plus. Ah, personne ne vient à la réunion prier. Mais toi, déjà, prends l'engagement d'y venir. Tu verras que tu feras un de plus. Parce que quand tu dis ça, tu ne mets pas, tu ne comptes pas tous ceux qui, depuis des années, sont fidèles à la réunion. En plus, les bien-aimés, nous n'avons plus d'excuses, puisque maintenant, avec le Covid, chacune de nos églises s'est équipée pour que, si on ne peut pas venir physiquement, qu'on soit connecté, au moins par Zoom. Donc, on participe. Puisque nous avons appris que lorsque l'église est unie, parfois, si on ne peut pas être physiquement ensemble, Dieu entend quand même nos prières. Donc, se connecter, ça vaut aussi la présence. Mais la première option, c'est quand même de venir. Je rêve à ça. Un jour peut-être, je verrai nos assemblées en semaine être aussi étoffées que le dimanche. Quatrième objectif et avant-dernier. Un accueil de qualité. Un accueil de qualité. Et le texte, sinon les textes qui nous font réfléchir à cela, le premier c'est Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté. Jésus a manifesté cet accueil. Christ, lui, il a même été taxé de ne pas être conforme à son statut social. Parce qu'il accueille un peu tout le monde. Les gens disent, mais tu ne peux pas faire ça. Tu es un rabbin. Un rabbin, c'est un maître, c'est un enseignant. Il ne peut pas se mettre avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais Jésus dit, mais si un rabbin ne peut pas se mettre avec tout le monde, quel est le rôle d'un rabbin? Un rabbin, c'est celui qui doit être proche du peuple pour lui enseigner la parole. Mais si le rabbin, à cause de son statut, ne permet pas à tous de l'approcher, c'est un peu compliqué. Théologiquement, je ne sais pas. Mais dans ma petite explication, je me dis, pourquoi Dieu fait naître le Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, le prince de la paix dans une étable? Pourquoi il le fait naître dans des conditions aussi pauvres? C'est pour que tous ceux qui veulent l'approcher puissent l'approcher. Imaginez-vous si c'est né dans un palais. Qui aurait pu l'approcher? Qui aurait pu approcher un prince né dans un palais? Que les autorités, que les dignités. Alors que là, de par le statut dans lequel il est né, tout le monde a pu l'approcher. Et les gens disent, mais on le connaît! Mais il est ici à Nazareth, il marchait ici. On l'a côtoyé tout le temps. Il était toujours avec nous. Et quand il a commencé son ministère, il a fait pareil. On dit sillonnant les hameaux et les villages, de ville en ville. Là où il allait, il était un peu partout, dans tous les espaces publics, dans les marchés, partout. Un homme religieux de l'époque, quand il marche dans la ville et qu'en face de lui, on appelle ça les pharisiens blessés, et qu'en face de lui, il voit une personne qui est mal habillée ou en tout cas une prostituée, c'est les traditions qui nous le disent, hein, ils ne le font plus maintenant, mais à l'époque, on dit qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et il marche à reculons. Tant pis s'il y a un caniveau, tant pis s'il tombe, mieux vaut tomber que de laisser ses yeux voir l'impureté. Là, le critère de sanctification qu'ils avaient mis, c'était un critère élevé, parce qu'ils voulaient être saints. Et c'est ça qui les a choqués quand ils voient que Jésus est assis avec une prostituée. Oh! Scandale. Ils disent si c'était un vrai homme de Dieu. Franchement, nous, notre vision même, on ne laisse pas notre vision tomber sur une prostituée, à plus forte raison, nous toucher. Et lui se laisse toucher par cette femme de mauvaise vie. Jésus dit, elle au moins elle sait qui elle est. Et elle sait pourquoi elle m'approche. Parce qu'elle sait qu'elle est une enfant de Dieu et que l'état dans lequel elle est, ce n'est pas un état dans lequel elle veut demeurer. C'est parce que dans son cœur, il y a déjà un début de changement qu'elle m'a approché. Et il dit partout où on parlera de moi, on parlera aussi de cet épisode où cette femme-là m'a touché. Elle n'est pas restée prostituée après cette rencontre avec Jésus-Christ. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Parce que Jésus lui-même, dans sa lignée, dans ses ascendants, il y avait une ancienne prostituée. Elle s'appelait Rahab. Elle s'appelait Rahab. On appelait Rahab la prostituée. À Jéricho. Mais on l'a plus appelée la prostituée. Après qu'elle ait rejoint le peuple de Dieu, on l'appelait tout juste Rahab. Sa vie avait changé. Elle fait partie des ascendants du Christ. On ne fige pas les gens dans leur statut social. C'est Jésus qui change les cœurs des gens. L'accueil bien-aimé, l'accueil. Tout être humain a besoin de se sentir accepté. Si dans la maison de Dieu, nous ne faisons pas l'effort d'accueillir tous ceux qui viennent, où est-ce que les gens vont se sentir accueillis? C'est ici. Il dit, ma maison sera une maison de paix, une maison de shalom, où quand quelqu'un vient, il peut commencer à trouver un début d'apaisement. Même si tout ne va pas être résolu, mais un début d'apaisement. Combien de frères, même encore hier, une de nos sœurs témoignait, combien de frères, combien de personnes ont dit, je suis allé dans une église, oh, j'étais comme une ombre, personne ne m'a vu, à la fin du culte, personne ne m'a approché. Je suis arrivé comme je suis arrivé, je suis parti comme je suis parti. Ça m'a fait un peu bizarre cette église-là. Combien de gens n'ont pas témoigné de ça? C'est terrible et c'est triste que des gens disent ça d'une église chrétienne. Ça ne devait pas exister, ça ne devait pas exister, ça ne devait pas exister. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans une église et dire, personne ne m'a vu. C'est pour cela que nous, les églises évangéliques, on a mis ce temps d'accueil qui fait partie du culte. Ce n'est pas un temps pour exhiber qu'on a tel nombre de personnes qui nous ont visitées, c'est pour ne pas passer sous le radar un visiteur qui serait là dans l'assemblée. Donc c'est un temps important. Ce n'est pas un temps de la fin où on fait vite pour partir, non. C'est un temps où on donne l'opportunité à ceux qui nous ont visités de se sentir accueillis. C'est un temps d'accueil, bien aimé. C'est un temps d'accueil. Et c'est pour cela aussi qu'on a un petit comité qui approche les personnes pour faire la conversation et pour prendre, si elles veulent bien, leur contact pour que après nous puissions, si elles ne manifestent pas une opposition, nous puissions rester en contact avec elles. C'est de ça qu'il s'agit. L'accueil, c'est de ça qu'il s'agit. Combien de chrétiens ont quitté une communauté, ont rejoint une communauté, ont dit, ouais, je suis venu là, mais les gens sont entre eux. Il y a des petits clubs dans cette église, les gens sont... j'ai du mal à m'intégrer, j'ai du mal. Parce que dans certaines communautés, il y a des clubs fermés. Il y a des clubs fermés. Que Dieu nous aide. Que nous n'ayons pas de clubs fermés ici. Ça ne devrait pas exister. Que nous ayons des amitiés, que nous ayons des affinités. C'est normal. C'est la vie. Et c'est pas à culpabiliser. Par contre, que nous ne puissions pas être ouverts à accueillir une autre personne. Dans cette... Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. C'est tout l'intérêt de nos groupes d'hommes. C'est tout l'intérêt de nos groupes de femmes. C'est tout l'intérêt de nos groupes de jeunes. Pour que dans tous ces temps d'âge, quand les gens, quand les personnes nous rejoignent, qu'elles se sentent accueillies dans ces cercles qui sont plus petits et accompagnées. Dernière présentation, dernier objectif pratique. Une présence de qualité. Matthieu chapitre 5, verset 14. Jusqu'à sûr. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tous les hommes. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un a dit, quels sont les endroits que dans votre localité les gens considèrent les plus importants? Quand on cherche à habiter quelque part, il y a des commodités qu'on cherche autour. Hein? Est-ce qu'il y a un supermarché autour où on peut faire les courses pas trop loin? Est-ce qu'il y a une école qui est pas trop loin pour les enfants? Est-ce qu'il y a un cabinet médical qui est pas trop loin? Un non habitait à Saint-Fargeau, c'était un petit appartement, c'était pas très commode, mais au moins le médecin, il était à quelques pas de la maison. Donc on descendait juste, il était là, il fallait faire la queue, donc c'était plus facile. Donc c'est des endroits comme ça qu'on cherche. Mais quand on parle de l'éternité, quel est l'endroit le plus important dans une ville quand on parle de l'éternité? Où est-ce que les gens vont aller acheter l'éternité? C'est un supermarché? C'est à l'école? C'est à la boulangerie du coin? C'est à l'épicerie? Non. C'est à l'église. C'est à l'église. Donc, si nous n'avons pas perçu qu'avoir une église locale dans une ville, c'est pour que les gens viennent rencontrer l'éternité, il faut le percevoir. C'est pour ça que nous sommes là. Pour donner l'opportunité à tous ceux qui cherchent le salut d'avoir un endroit proche où ils peuvent se diriger. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'avant nous, des hommes et des femmes ont donné de leur temps, ont donné de l'argent pour qu'il y ait cette présence au 17 rue des Malais-Chabriers. C'est pour cela que nous voulons aussi nous investir pour qu'il y ait cette présence ici. Pour que des hommes et des femmes qui cherchent Dieu puisse trouver une église locale, bien-aimée. Une présence de qualité. C'est pour cela que nous entretenons autant que nous pouvons de bonnes relations avec le voisinage. Parce que nous avons un témoignage à. C'est vrai qu'une fois, lors d'un baptême d'une jeune, il y avait du monde, les jeunes étaient venus de partout. Puis j'ai un collègue qui, pendant la cérémonie, enfin, la réception, m'a envoyé un petit message. Il dit, Serge, qu'est-ce qui se passe dans ton église? Je dis, mais t'es pas là, qu'est-ce qui me passe dans mon église, comment ça? Il dit, mais je vois une alerte sur Internet qu'il y a une église où les gens sont en train de festoyer et c'est le 17 rue Manuel Chabrier. J'ai dit, oula, bah oui, on fait un baptême là à côté. Parce qu'apparemment, il y a une application comme ça où on peut envoyer des alertes. Je dis, honnêtement, si c'est cette alerte-là, je veux bien. Parce que les jeunes, là, ils chantent des chants pour la gloire de Dieu. Dans cette alerte-là, je la veux bien. Parce que les gens, ils sont un peu compliqués. Quand les gens font le rodeo, quand les gens font de la musique forte, ils n'ont pas le choix que d'écouter. Des fois, on est tous démunis, on ne peut rien faire. Là, une fois dans l'année, 365 jours, un seul dimanche dans l'année, nos jeunes s'asseyent là. Ils font de la musique gospel et ça gêne une personne. Cette gêne-là, je veux bien la porter, même devant le commissariat, parce que franchement, il y a de quoi se défendre. Donc, depuis toutes ces années, nous avons eu de bon voisinage, que ce soit en face. Il y a eu quelques temps où il y avait quelques voisins qui nous envoyaient des lettres anonymes, et moi j'ai dit avec le conseil, tant que c'est anonyme, je ne m'y intéresse pas. Si vous voulez qu'on discute, mais mettez votre nom. Comme ça, je vous retrouve, et on s'assoit, et on en parle. Et moi, si je vois 10, 20, 30, 40 lettres comme ça, ça m'arrange, parce que on va aller à la mairie pour dire, essayez de nous changer. Ça fait des années qu'on demande quelque chose, on a même l'argent pour. Voilà. Mais, dans l'ensemble, on a eu de bons voisinages depuis toutes ces années ici. Que ce soit avec le centre Kennedy, tous les jeunes animateurs de la ludothèque, les mardis, les mercredis, je les vois, on a une bonne entente. Et on a même reçu l'une d'entre elles, Awa. On a fêté son départ. On lui a donné un cadeau. On est resté en relation avec cette jeune. Elle est musulmane. Une présence de qualité. Pendant toutes les années, cette église a fait aussi du social ici. Avec un point social où les gens venaient. Quand je suis arrivé en 2017, le point social n'existait plus puisque c'était conduit par des sœurs mais qui avaient arrêté pour beaucoup de raisons légitimes. La maternité de l'Interco continue à nous appeler pour nous donner. Est-ce que vous avez toujours ce point social? J'ai dit non, on l'a fermé depuis quelques années. Donc ça veut dire qu'on avait un bon témoignage et qu'on a gardé ce bon témoignage. Amen. Nous sommes là pour avoir une présence de qualité. Les gens savent que nous sommes église. Vous imaginez, si les dimanches, les gens entendent des cris de bagarre ici, pam, 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 et qu'on sort, faites-le moi, pam, oh, c'est une église ça? Le choc. Et parfois, on est pas sage aussi. Dans certaines communautés. Quand vous êtes dans une église avec du voisinage, vous devez bien régler vos micros, bien régler les sons. Là, on a une petite salle de 70 mètres carrés. Ce son-là, ça va. Tu mets des décibels, je ne sais pas à combien d'auteurs, tu veux que qui t'entende. La salle est déjà saturée par ta voix. Tu déranges tous les voisins et tu dis, tu fais de l'évangélisation. Je ne suis pas d'accord. C'est du bruitage, c'est pas de l'évangélisation. Si tu veux faire de l'évangélisation, prends les chrétiens, allez faire du 1 à 1. Mais le 1 à 1, on a peur, puisque les gens peuvent te rejeter. S'arrêter derrière, crier dans un micro, c'est plus facile. Mais ça dérange, et c'est pas une présence de qualité. C'est pas une présence de qualité. Que Dieu nous aide, nous voulons avoir cette présence-là. Nous l'avons, et nous voulons progresser dans cette présence, et nous voulons faire des choses qui glorifient Dieu. Voilà, bien-aimés. Je sais pas si Yandel sera, vas-y voir. Voilà. Fais de l'Éternel tes délices, et il fera quoi? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Une façon de faire de l'Éternel ses délices, c'est d'aimer faire son œuvre. Et aimer faire son œuvre, c'est d'aimer s'impliquer dans une église locale. S'engager pour le servir. S'engager pour le servir. Une église rayonnante. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Et quelqu'un écrit, leur amour pratique était aussi vrai que leur piété. Et leur union, dans les saintes écritures, unissait leur cœur les uns aux autres et ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aiment et sont très gentils les uns avec les autres. Les gens ont été influencés. Quelle église pieuse, joyeuse et chaleureuse que cette église! Lorsque d'autres personnes vivent la vie de ces chrétiens, ils se joignent à cette communauté. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, je trouve qu'on a un beau défi ici, sur lequel il nous faut progresser, être jaloux, garder ça jalousement. J'ai entendu plusieurs personnes nous rejoindre dire « J'ai été bien accueilli ». Pour moi, c'est une joie. Mais en même temps, ça me donne une responsabilité. Parce que cette personne qui a été bien accueillie, comment on va faire pour qu'elle soit bien intégrée par la suite? Que cet amour soit un amour concret. On peut être bien accueilli et puis la suite. Vous savez, le visiteur, il a la faveur du nouveau venu. Mais une fois qu'il est le nouveau venu est passé, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la question. Et tout à l'heure, nous aurons aussi l'occasion d'accueillir une des personnes qui nous a rejoints dans cette communauté. Voilà, bien-aimés, que Dieu nous aide, que nous soyons une église avec un amour de qualité, avec un enseignement de qualité, avec des moments de prière de qualité, un accueil de qualité et une présence au monde de qualité. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.